7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Le 25 janvier 2011, dans la foulée des révolutions arabes, hommes et femmes se sont soulevés en Égypte contre Hosni Moubarak, alors au pouvoir depuis 30 ans. Aujourd'hui, les idéaux de la révolution semblent avoir été confisqués et les libertés restreintes au nom de la sécurité. Une répression menée férocement depuis l'arrivée au pouvoir à l'été 2013 de l'ex-général de l'armée Abdel Fattah al-Sissi, président qui avait très tôt promis de faire des droits des femmes une priorité en Égypte, alors classé pire pays sur cette question dans le monde arabe. Alors loin des idées reçues et des promesses non tenues, quelle place pour les femmes dans l'Égypte de l'après-révolution? Quel combat reste-t-il à mener face au harcèlement de rue, aux violences de toutes formes que les femmes doivent subir, aux mentalités parfois très conservatrices? Comment être une femme et qui plus est une féministe en Égypte? J'ai le plaisir de recevoir Florie Bavard, anthropologue qui, dans un web documentaire, donne la parole à 15 militantes féministes et égyptiennes. Bonjour.
Bonjour, merci de nous avoir invitées.
Vous vous intéressez de près aux mouvements sociaux féminins en Égypte et votre documentaire, que l'on peut retrouver sur internet, s'intitule « Womanhood ». Bonjour Chérine El Fikhi.
Grand plaisir.
Vous avez publié le livre « La révolution du plaisir », justement. Vous êtes vous-même d'origine égyptienne, vous travaillez sur la sexualité en Égypte comme dans d'autres pays du monde arabe et vous êtes vous aussi très engagée pour les droits des femmes. À la fin de cette émission, nous parlerons d'une autre initiative qui entend aussi donner la parole, cette fois à des réfugiés et des personnes déplacées en Irak. L'idée, poser des micros dans des camps qui sont devenus l'horizon de ces personnes pour leur permettre de créer leur propre émission de radio. Nous recevrons Antoine Lalanne, l'un des cofondateurs de Radioactivité qui est à l'origine de ce projet. Les voisins, les voisines, avez-vous des questions pour nos invités du jour sur la situation des femmes en Égypte? Quelle place pour elles dans la société? Si vous avez suivi l'actualité de ce pays, si vous vivez ou si vous avez vécu en Égypte, qui sait, ou si vous êtes tout simplement curieux, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr, comme toujours, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je vous lis le message sur Facebook de Noufou qui nous écrit depuis Niamey. Il est temps de placer les droits des femmes au cœur du programme politique en Égypte. On garde le souvenir d'un bref moment pendant lequel les Égyptiennes ont cru qu'un avenir meilleur s'ouvrait enfin pour elles. Mais 4 ans après la révolution égyptienne, la situation ne semble pas s'être apaisée. Dans un rapport publié en janvier, Amnesty International dévoile qu'en Égypte, les femmes sont victimes de violences d'une ampleur inquiétante. Aucune amélioration n'est faite. Un voisin donc érudit sur la situation. Fataou nous écrit depuis Lomé au Togo, il nous donne son avis. On doit prendre en compte le contexte culturel. Bien sûr, je désapprouve la violence faite aux femmes, mais chaque culture a sa façon de considérer la femme et la culture occidentale ne doit en aucune manière affecter les autres cultures sur ce plan. Et puis, je vous lis également le message de Jean Sylvestre qui est à Abidjan. Au-delà de l'Égypte, ce sont les conditions de toutes les femmes, particulièrement des pays en voie de développement, qui doivent être remises en cause. Beaucoup de choses restent à faire. Florie Bavard, comment vous est venue l'envie de donner la parole à des femmes égyptiennes et engagées?
Alors, tout a commencé en 2012. Je faisais un mémoire à l'époque sur les écritures autobiographiques de femmes en Égypte, sur les mémoires et les blogs de 1899 à 2012. Je travaillais à l'EHESS sous la direction de Jocelyne Darlia et j'avais eu la chance de rencontrer des blogueuses et des auteurs pour les questionner sur ces écritures autobiographiques. Et souvent, c'était le même retour qui m'était donné quand je me présentais en tant qu'étudiante française. C'était un ras-le-bol dans la façon dont l'Occident représentait les voix féminines arabes, comme si c'était un bloc homogène du Maroc au Pakistan, avec souvent 3 mêmes avatars pour représenter le féminin envisagé au singulier. Tantôt l'odalisque, lascive et passive, tantôt la victime, passive toujours à émanciper. Et depuis le printemps arabe, il y aurait quelques rebelles, jeunes, connectés, modernes. Le but de ce projet, c'était justement de s'éloigner de ces 3 avatars pour entrer dans la réalité de l'expérience vécue, du quotidien, dans la subtilité de toutes ces questions-là. Et c'est là que m'est venue l'idée de faire un web documentaire Donc cette fois pas avec seulement des auteurs et des blogueuses, mais avec des femmes qui travaillaient sur le genre déjà en Égypte. C'était ça le premier critère. Le deuxième, c'était connaître une des autres femmes du documentaire. Ce sont elles qui m'ont présenté la personne qui allait parler ensuite. C'est donc un groupe d'amis actives à un instant T autour d'une thématique précise qui est celle du genre. On ne voulait pas faire de portrait de la femme égyptienne, puisqu'on ne croit pas au singulier, comme je viens de le dire. Et c'est là que le format web documentaire nous a paru être une façon de sortir des formatages, justement, de ces voies-là, pour rentrer dans un temps plus long. Donc je les ai rencontrées seules au début, en présentant une liste de mots. Et c'était à elles de choisir les mots dont elles souhaitaient parler, de donner leur définition de ce mot-là. Pas de questions posées, pas d'équipe de tournage, juste elle et moi, dans leur façon d'exprimer leur vision du monde.
Alors justement, je vous propose d'écouter un extrait du teaser de ce web documentaire « Womanhood ».
Nous avons le sentiment que cela devrait venir de l'intérieur de nous, car nous sommes celles qui sont conscientes de notre propre complexité, de ce qu'ils pensent dans notre société. Cela ne peut même pas s'expliquer. Nous la vivons simplement. Nous la ressentons.
Ok, donc vous voulez que je vous dise ce que ce mot signifie pour moi?
Oui, ce qu'ils veulent dire pour vous, d'après votre expérience.
Dans la société?
Exactement. En fait, tout ce que vous voulez dire. Il n'y a pas de règles, c'est l'idée.
On filme là?
Oui, on filme maintenant, ça y est.
Your film, you're cool.
Alors, je choisis le mot activisme.
Yes.
Activism. Je ne comprends pas ce que c'est, l'activisme.
I don't understand what activism is.
Je pense que je choisis le mot corps, car ça a été un long voyage de comprendre ce mot et son sens.
Ils ont rompu la relation que nous avions, nous les femmes, avec notre corps.
I love myself when I challenge.
Moi, je m'aime quand je me donne des défis. Et je me déteste quand je ne m'en donne pas. Je défie tout dans ma vie, même mon âge.
Everything in my life, even age.
Le désir, c'est tout pour moi. De mon point de vue, le désir, c'est ce qui me fait avancer.
I'm gonna add expectations.
Je vais ajouter le mot attente.
I think generation also is something.
Je pense que le mot génération est aussi important.
On l'entend, Florie Bavard, les femmes ont dû choisir des mots parmi ceux que vous leur proposiez pour ce web documentaire. Vous leur en avez proposé 35 et elles en ont pu en proposer également.
Elles en ont ajouté, donc on arrive à une liste totale de 75 mots. L'idée, c'est que je pose pas de questions, c'est elles qui choisissent le mot dont elles veulent me parler et qu'elles le relient à d'autres de la liste. J'ai été souvent surprise par les mots qu'elles ont proposé d'ajouter. C'était révélateur aussi justement de leur hiérarchisation, de ce qui leur semblait à elles important d'analyser. On a eu des mots comme confort, par exemple, que je n'avais pas mis sur la liste, mais qui sont révélateurs justement de comment les gens envisagent ou vivent les questions de genre, en fait, au sens large. Et c'était à elle, justement, de choisir, de définir et de relier.
La parole était libre. Chérine El Fekki, vous avez quant à vous participé à une enquête internationale sur les hommes et l'égalité des sexes dans plusieurs pays, hein, l'Égypte, le Liban, le Maroc, la Palestine. Alors pour l'Égypte, qu'est-ce qui a pu vous marquer dans cette étude ?
Nos données étaient tellement surprenantes sur beaucoup de cadres. Mais ce qu'on a trouvé, il y a cette impression, surtout à l'Occident, que le patriarcat, c'est quelque chose de merveilleux pour les hommes. Mais ce qu'on a trouvé, que vraiment le patriarcat qui existe dans notre système politique, mais aussi dans nos familles, le patriarcat, c'est comme une pyramide. Il y a des hommes au sommet de la pyramide et la plupart des femmes sont au-dessous. Mais aussi, il y a beaucoup d'hommes au-dessous aussi. Et ils soutiennent une grande pression dans leur vie. On a trouvé, par exemple, en Égypte, presque la quasi-totalité des hommes ont peur pour leur propre sécurité, la sécurité de leur famille. Ils ont peur de ne pas avoir des besoins, satisfaire les besoins de leur famille. Et il y a beaucoup de stress sur les hommes. On a trouvé que presque une, un quart des hommes ont des symptômes de dépression. On a parlé avec les hommes qui nous ont dit que vraiment, pour continuer dans la journée, on doit prendre les médicaments antidouleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes parmi des hommes, mais la plupart de la politique, des recherches, le programming sur le terrain, c'est pour les femmes et les filles, et c'est juste. Mais aussi, dans un système de pouvoir, un système autoritaire, il y a des problèmes pour les hommes aussi. On doit les engager dans ce grand dialogue, ce grand effort pour les droits fondamentaux, pour tout, pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes aussi.
Et comment perçoivent-ils la question de l'égalité entre les hommes et les femmes?
C'était tellement intéressant. Surtout, en Égypte, les attitudes ont été un peu plus conservatrices que dans les autres pays, un peu plus. Et surtout, ce qui était intéressant, on a fait cette étude dans plus de 30 pays mondialement. Et dans les autres régions du monde, on a trouvé que les jeunes hommes sont beaucoup plus ouverts que leurs aînés. Mais ce qui était intéressant, en Égypte surtout, les jeunes hommes étaient beaucoup plus fermés sur les attitudes, l'égalité du genre, les droits des femmes, par exemple, que leurs pères et leurs grands-pères. Mais ce qu'on a trouvé aussi, c'est que les jeunes femmes sont beaucoup plus ouvertes que leurs aînés. Alors, il y a un écart croissant entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Et comment est-ce qu'on va le résoudre?
C'est effectivement la question qui nous concerne aujourd'hui. Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et nous, on continue de tendre l'oreille pour écouter ce qu'ont à nous dire ces femmes engagées en Égypte de tout âge.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
J'ai toujours été révoltée toute ma vie. J'étais une enfant révolutionnaire. Je rêvais très fort de la révolution depuis que j'étais enfant. Parce que j'étais extrêmement en colère contre le système autour de moi. En colère contre Dieu, en colère contre mes parents, en colère contre mes enseignants, en colère contre les médecins, en colère contre El Sadat. Il m'a mise en prison. J'étais en colère contre Moubarak. Il m'a contrainte à l'exil. J'étais en colère contre les groupes religieux fondamentaux. Ils ont mis mon nom sur la liste des personnes à abattre.
I was not satisfied with the injustices.
Je n'étais pas contente des injustices et de l'hypocrisie du système politique. Et mon sentiment, quand j'étais enfant, est exactement comme le sentiment que j'éprouve maintenant alors que j'ai dépassé les 80 ans. Comme si rien n'avait changé en moi. Parce que le monde est le même. Rien n'a changé dans le monde capitaliste patriarcal religieux. Depuis mes 7 ans, rien n'a changé. La même discrimination contre les femmes, la même discrimination contre les pauvres, les mêmes mensonges, la même mauvaise éducation, la même pauvreté qui en plus ne cesse d'augmenter. Ce qui fait que je me sens encore comme une enfant révolutionnaire, même aujourd'hui.
Nawal El Sadawi, icône du féminisme en Égypte que vous avez rencontré. Florie Bavard, c'est une écrivaine âgée de 85 ans aujourd'hui qui s'est engagée dans plusieurs livres contre le patriarcat, dans l'Égypte rurale traditionnelle où elle a grandi, contre l'excision aussi en 72 déjà, contre les intégrismes religieux et puis sur beaucoup d'autres sujets. Vous la connaissez, Chérine El Fekki?
Oui, Nawal El Sadawi était un collègue de mon père à l'école de médecine pendant les années 50 au Caire. Et j'avais le plaisir d'avoir un entretien avec elle, une présentation à Londres il y a quelques mois l'année dernière, à vrai dire. Et elle garde toujours cet esprit, cet enthousiasme. Et c'est tellement difficile dans les conditions en Égypte.
Et puis elle est pessimiste en fait hein, sur l'évolution de la situation, Florie Bavard.
Elle est pessimiste et en même temps elle travaille beaucoup sur les liens intergénérationnels qui je pense aujourd'hui sont une façon de garder un horizon sur un changement qui pourrait aller vers quelque chose de mieux. C'est vrai que ce rôle de... vous avez parlé d'icône, justement, c'est un des mots de notre liste. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur les 15 intervenantes, certaines ont utilisé ce mot-là pour parler d'elle, justement. Donc on sent que ça circule, que c'est aussi des liens dans ces groupes engagés qui permettent aussi d'avoir des horizons, d'avoir un ancrage historique, elle, dont elle est aussi garante, puisque son rôle de pionnière est reconnu par la plupart des intervenantes. Et c'est cette continuité-là, je pense, qui permet d'avoir des mouvements qui permettent de se projeter, qui permettent d'espérer. Par exemple, pendant la Révolution, elle a organisé chez elle des salons de femmes. Pour,
j'y ai assisté. Oui.
Bah, voilà, une de nos intervenantes, Shiraz, aussi était là-bas. Elle renoue avec une tradition qui existe de longue date dans le monde
arabe. Donc le féminisme a une longue histoire.
Le féminisme en Égypte a une histoire assez centrale. Un rôle,
depuis le début du XXe siècle.
Depuis le début du XXe siècle. Alors souvent, certains utilisent, dans l'historiographie occidentale, on utilise souvent Kazim Amin comme le début d'un féminisme, mais ça donnerait l'impression qu'il a fallu attendre les hommes pour avoir un féminisme en Égypte, alors que les écoles pour filles avaient ouvert dès 1873, qu'on avait déjà des poétesses égyptiennes qui questionnaient le genre. Et donc, je pense que c'est nécessaire de remonter un petit peu, même avant lui, pour montrer qu'il y a justement la littérature a permis en Égypte, la poésie entre autres, de penser le genre. Alors, parler de féminisme ou pas, en tous les cas, c'est des moments où on questionne les conditions des femmes. Et ce n'est pas un hasard que ça arrive au moment où justement les gens veulent se projeter dans un futur qui n'est pas colonial, qui permet justement de réévaluer les rôles, de penser qui seront les protagonistes de l'État à suivre. Et c'est vrai que voilà, Nawal El-Sadawi s'inscrit dans cette tradition, puisque c'est une auteure, c'est une psychiatre aussi. Elle a beaucoup travaillé dans les prisons égyptiennes, elle a beaucoup travaillé autour de la corporalité, c'est un médecin, comme vous l'avez dit. Et la littérature est un petit peu un fil conducteur qui permet de faire dialoguer, justement, et de s'inscrire dans des traditions, un ancrage.
Chérine El-Fekki, vous vous êtes intéressée, vous, à la sexualité également, en Égypte. Qu'est-ce que le rapport à la sexualité nous raconte ?
Et pas seulement en Égypte.
Et pas seulement en Égypte.
J'ai trouvé que la sexualité est une lentille tellement intéressante pour interroger qu'est-ce qui se passe sur le grand plan de la société. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la vie politique, la vie économique, parmi les traditions, la religion, il y a une réflexion dans la vie intime. Il y a un lien entre la chambre à coucher, par exemple, avec la chambre des députés. Et alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire d'être libre, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la dignité, d'avoir l'égalité, si on ne peut pas le trouver dans nos vies intimes, nos vies sexuelles. Et si on peut le réaliser dans nos vies intimes, peut-être ça va nous aider sur le grand plan, sur le plan public. Il y a un lien entre, comment on dit en anglais, the personal is political. C'était le slogan de mai 68, n'est-ce pas, à Paris. Il y a un lien
personnel
entre les deux. Mm. Et maintenant, sur le plan politique, c'est tellement difficile de changer des choses en Égypte. Mais peut-être on peut bouger un peu sur le plan intime. Et peut-être enfin, et après peut-être une génération, il y aura un rapprochement entre les deux.
Mais où en est-on alors sur le plan intime, sur le plan de la chambre à coucher?
C'est intéressant, les choses commencent à bouger un peu, mais pas les grands défis, les grands tabous. Par exemple, c'est toujours exigé qu'une femme soit vierge à la veille de noces, par exemple. Mais c'est toujours une question d'apparence. C'est question de présenter à l'égard des autres. Mais les gens, les jeunes par exemple, qui ne peuvent pas se marier, par exemple, ils ont des relations, bien sûr, mais c'est comme on dit en arabe, taht el tarabiza, sous le tapis. Et voilà le problème, parce qu'il y a des problèmes, bien sûr, on a le VIH-Sida, on a la violence domestique, on a la violence sexuelle. On doit trouver un moyen de faire sortir ces chuchotements et d'en parler ouvertement. Mais comment est-ce qu'on peut le trouver dans une manière qui est d'accord avec nos traditions et aussi notre religion, l'islam? Mais à mon avis, l'islam, il y a beaucoup de possibilités en islam pour avoir une discussion et vraiment des vies beaucoup plus épanouissantes sur le plan sexuel.
Le combat pour les droits des femmes commence dans les foyers, dans l'intimité. Chérine El-Fekki, Florie Bavard, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après le flash d'infos sur RFI pour continuer de parler des femmes en Égypte. Quel combat reste-t-il à mener? Les voisins, les voisines, on vous attend au standard. On attend vos points de vue, vos questions, vos témoignages. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. A tout de suite dans 3 minutes sur RFI.
Milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez. Elles sont parfois tout sourire, ont parfois le regard grave, dur. Toutes ont le visage de battantes. Ces 15 femmes à l'écran ont en commun d'être nées femmes en Égypte, dans un pays où les droits restent limités pour elles, et puis d'être militantes, ni passives, ni victimes, ou ni les rebelles qu'on peut décrire. Ces femmes veulent sortir des carcans et des cases dans lesquelles les observateurs du monde entier s'obstinent à les mettre. Et Florie Bavard a voulu y contribuer. C'est notre invitée, anthropologue, auteure du web documentaire Womanhood, être une femme en Égypte. À vos côtés sur ce plateau, Chérine Elfekli, qui a publié La Révolution du plaisir aux éditions Autrement et qui a longtemps travaillé sur la sexualité dans le monde arabe et notamment en Égypte. En Égypte, où l'oppression peut prendre la forme de harcèlement de rue, un harcèlement de rue quotidien, mots insultants, regards lubriques, attouchements. 99% des femmes égyptiennes disent avoir été harcelées sexuellement et affirment se sentir menacées par leur compatriote masculin. Écoutez ce qu'a à en dire Mena Ala Aled. Elle est étudiante à 22 ans, elle vit au Caire et vous l'avez rencontrée pour votre web documentaire Florie Bavard.
J'ai fait une enquête en ligne sur le harcèlement au niveau de la ville entière pour identifier les rues où les cas de harcèlement arrivaient le plus. Les filles les plus exposées au harcèlement avaient entre 15 et 25 ans. C'est la tranche d'âge la plus exposée au harcèlement, ce qui est en grande majorité l'âge de l'université et du secondaire. Ça m'a fait mal de le savoir.
It's so hard to me like this, and the age of harasser was.
L'âge du harceleur était jeune, plutôt 13, 12 ans, à partir de 11 ans en fait. Aussi, mais plus rarement dans les plus vieux, comme les plus de 35 ans. Ils harcèlent les filles en faisant des choses dégoûtantes. C'est horrible de voir un mec qui a la quarantaine harceler une fille de 18 ans. Mais j'ai rencontré plus de situations et de récits concernant les filles quand j'ai mené une campagne de sensibilisation dans les rues. Comme quand un mec m'a dit que la fille était celle qu'il fallait le plus blâmer pour le harcèlement, parce que quand elle sort dans la rue, c'est comme si elle lui disait « Tu devrais me harceler parce que je porte une belle robe, que je suis tellement bien dans ma peau et que je suis belle. Donc, pour que je puisse me sentir encore plus belle, tu devrais me harceler. » C'est ce qu'elle m'a dit. C'est stupide. Ça, c'est le genre de choses que j'ai rencontrées. J'en rencontre d'autres encore aujourd'hui, mais je gère ça autrement. J'ai déjà frappé un mec dans la poitrine. J'étais avec ma mère, il m'a harcelé et je lui ai donné un coup de pied dans la poitrine. Il est arrivé par derrière et je me suis retournée. Je lui ai donné un coup. Les gens ont achevé de le frapper. Je me suis sentie bien. Mon pied m'a fait mal, mais je me suis sentie bien.
Alors, cette étudiante affirme un peu plus loin dans la vidéo « Je veux que plus de filles parlent fort, c'est notre silence qui amplifie le problème ». Alors en Égypte, hein, difficile de ne pas évoquer la situation des femmes sans parler de cette question du harcèlement de rue. Mais on voit, Florie Bavard, qu'une parole, des femmes s'est libérée depuis la révolution sur ce sujet.
Alors, quand on nous demande qu'est-ce qui a changé depuis la Révolution, c'est toujours dur d'évaluer. Une des choses que j'ai vraiment ressenties, c'est que la question du harcèlement est mise au devant de la scène. C'est un des tabous qui est brisé, on peut le dire. On ne peut pas dire pour autant que la honte a déjà changé de côté, mais on peut dire que les gens en parlent et que de plus en plus de personnes condamnent cette pratique. Ce qui m'intéressait aussi avec le mot harcèlement, c'est qu'on ressent quelque chose qui est inhérent à ce web documentaire, c'est que certains mots, comme le mot révolution, montrent qu'on est bien dans un pays, en Égypte, où on n'a pas le même vécu que si on était né en France. À l'inverse, des mots comme corps montrent que certes, si le contexte national influe, il y a quand même des continuité internationale, mondiale, humaine, sur les questions inhérentes au fait d'être femme. Et le mot harcèlement, il est justement au croisement de ces deux aspects-là. On sait bien qu'en Égypte, aujourd'hui, le harcèlement prend des proportions et des risques qui ne sont pas les mêmes que n'importe où dans le monde.
En même temps, parfois perpétré par des forces de police.
Exactement, comme c'est fut le cas avec les tests de virus virginité, par exemple, qui ont eu lieu en 2011, où c'était d'une violence indicible, où voilà, des femmes ont été soumises d'abord à de la torture avant qu'on vérifie qu'elles étaient vierges, soi-disant.
Pour vérifier qu'elles n'avaient pas été violées, hein, c'était
voilà, un prétexte, sauf que, en fait, ce test-là est lui-même un viol. C'est un acte de pénétration non consenti. En droit français, c'est un viol. Donc on voit que les proportions que ça peut prendre sont bien sûr dévastatrices là-bas, mais que le mot harcèlement, il est au carrefour de quelque chose de l'ordre du contextualisable, mais aussi de l'ordre de l'humain. C'est pour ça que le hashtag MeToo, par exemple, en France, a bien marché aussi.
Et aussi dans le monde arabe, hashtag Anna Aiden, Anna Kamen, c'est moi aussi.
Humainement, à l'échelle de ce que ça veut dire être femme.
Ouais, mais qui famille. Prend une forme particulière aussi en Égypte, à laquelle vous vous êtes intéressée, Chérine El-Fekki. Vous avez montré dans votre étude que les hommes ne sont pas toujours les seuls à considérer que les filles harcelées ont leur part de responsabilité. Certaines femmes aussi ont cette opinion-là.
Dans notre étude, on a enquêté près de 10 000 hommes-femmes dans les quatre pays. Et en Égypte, par exemple, on a demandé aux hommes est-ce que vous avez jamais commis un acte de harcèlement sexuel dans la rue ou dans l'espace public? On a trouvé que plus ou moins 60% des hommes ont admis un tel acte. Et aussi, plus de 60% des femmes ont aussi vécu un tel acte de harcèlement sexuel. Mais ce qui était intéressant quand on a demandé, qui sont les filles, à votre avis, qui méritent, entre guillemets, l'harcèlement sexuel? Si une femme s'habille d'une manière provocante, est-ce qu'elle mérite l'harcèlement? Et à peu près trois quarts des hommes ont été d'accord avec ça, mais plus de 80% des femmes ont été aussi soutiennent cette idée. Alors, ce qu'on a trouvé sur beaucoup de sujets, surtout sur la sexualité féminine, les femmes ont été assez ou plus conservatrices que les hommes, par exemple.
Et en même temps, certaines s'expriment sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces harcèlements.
Et puis, pas seulement maintenant, on peut parler, par exemple, penser, donc là, il y a l'initiative Balance ton porc, mais ça me faisait penser que déjà en 2011, en Égypte, il y avait une initiative qui s'appelait Pigipédia, où des femmes mettaient en ligne, donc on retrouve le mot pig, mettaient en ligne les photos d'agresseurs qui les avaient violentées. Et ça, c'était déjà une initiative locale en 2011. On assiste depuis à des réponses locales à la situation, qu'on peut penser, par exemple, à l'opération Tahrir Bodyguard, où l'opération anti-sexual harassment, où sont des femmes et des hommes qui s'unissent pour combattre ça. Alors, ça prend des formes très concrètes, par exemple lors des viols de groupe sur la place Tahrir, qu'on retrouve souvent lors des événements. On les a trouvés en 2011, on les a retrouvés en 2013. C'est eux qui arrivent, par exemple, avec les lance-flammes pour extirper les victimes qui sont au milieu de criminels organisées pour certains d'entre eux, d'autres juste se mêlent à la foule.
Et certaines militantes féministes d'ailleurs parlent de terrorisme sexuel.
Le corps féminin est le lieu où se jouent des revendications identitaires, des cristallisations politiques. C'est par là qu'on fait régner la peur. Mais alors, il y a des réponses très concrètes. Voilà, beaucoup de sororité pour arriver à faire face sur le terrain.
Par exemple, pendant ce week-end, il y avait une émission sur la télé égyptienne. Il y avait un avocat qui a dit que les femmes qui portent les jeans déchirés méritent d'être harcelées. Et il y avait une telle réaction des femmes sur les réseaux sociaux, etc. Les femmes trouvent leur voix. Le problème est de faire les changements vraiment sur le terrain, parce que la plupart des femmes, même qu'elles ont subi les harcèlements, ne disent rien, par exemple, à la police, à leur famille, par exemple. Ils se taisent encore. Il y a cette tension.
C'est la sociologie de la honte et le fait que peu de personnes puissent justement enregistrer des plaintes. Les plaintes ne sont pas prises au sérieux, ou quand elles le sont. Ça passe d'abord. Voilà, les réseaux sociaux, par exemple, sont parfaits pour ce genre de questionnement, puisqu'on choisit ou pas d'y être anonyme, on choisit ou pas de donner cette parole à nos parents. Et c'est là que je sens qu'il y a une première étape qui est en train de passer le cap, où la honte n'a pas encore changé, mais en tous les cas, ça dialogue, ça discute, des témoignages sont mis au devant de la scène.
Et le grand problème est qu'on change les lois maintenant, on a des grandes réformes législatives mais sur les droits des femmes, mais comment est-ce qu'on peut faire les changements de mentalité quand tous les polices, les juges, par exemple, les avocats, sont plus ou moins les hommes?
Et c'est le problème justement du fait que les associations locales aujourd'hui en Égypte sont un petit peu asphyxiées, et c'est elles qui prenaient ce
Alors,
cette place.
On va parler de cette répression subie par l'ensemble de la société civile en Égypte. Les femmes égyptiennes à l'honneur dans 7 milliards de voisins aujourd'hui. Certaines peuvent même vouloir faire du bruit. C'est le cas des chanteuses du groupe engagé que vous connaissez peut-être, Bent Al-Massaroua, un groupe qui mélange rap, rock et pop et qui s'est fait connaître en 2015.
عشان تاخد
Bent Al-Massaroua, menée par trois jeunes égyptiennes engagées. Vous connaissiez, Shirin Al-Feki?
Je connais le travail parce qu'ils étaient aussi dans un groupe, dans un projet de théâtre qui s'appelle le Bussy Project. Et ils viennent tous de cette grande ONG qui a vécu beaucoup de problèmes en Égypte. Ça s'appelle Nasra. Et je pense que le chef, Mohsen Hassan, est dans vos
Et dans le film. Et trois autres des intervenantes font aussi partie du Bussy Project sur parler de la corporalité sur les scènes.
Alors, on parlait tout à l'heure de la répression qui s'abat sur la société civile et qui a un impact sur les associations notamment qui défendent les femmes et leurs droits. Florie Bavard.
Alors, l'État égyptien utilise une foreign funding case, le case 1173, pardon, qui est une des façons d'asphyxier les associations locales en leur disant qu'elles acceptent des financements étrangers, ce qui est illégal. Et à travers ce prétexte-là, on voit que les associations féministes, mais aussi les associations qui travaillent sur la torture en Égypte, les associations qui travaillent sur les droits des femmes, se font peu à peu asphyxier et de façon tout à fait concrète, puisque leurs organisatrices ou leurs fondatrices sont elles-mêmes appelées à comparaître devant la justice. Certaines se voient leur passeport confisqué, leur compte gelé,
comme Mohsen Hassan,
voilà exactement. Et c'est là qu'on sent que sous prétexte d'un féminisme d'État, on est en train de tuer la scène locale, les actrices locales qui justement sont celles qui mènent les opérations dont on venait de parler de façon concrète sur le terrain.
Oui, parce qu'officiellement, le président Al-Sisi, élu en 2013, a pris le parti des femmes. Il a fait adopter en juin 2014 une loi qui a fait du harcèlement sexuel des femmes un crime. Effectivement, il y a cette idée que l'État égyptien se veut le seul défenseur des femmes.
Mais quelles femmes? Par exemple, il y a un vrai, comment on dit en anglais, crackdown, une répression sur les populations LGBT, y compris les femmes aussi. Et alors, c'est une sorte de l'exigence politique si on imprime ou si on donne un peu plus de liberté au groupe. Ça dépend sur que sont les intérêts du pouvoir.
Mmh. 57 personnes ont été inculpées au mois de septembre pour incitation à la débauche, puisqu'ils avaient participé à tenir un drapeau arc-en-ciel LGBT sur le devant de la scène lors d'un concert. Ceci démontre que non seulement les associations féministes, mais aussi les acteurs qui essayent de faire bouger les choses sont aujourd'hui ciblés et en ligne de mire. Donc on ne peut pas minimiser le fait que 60 000 personnes ont été arrêtées depuis que Sisi est au pouvoir. C'est des chiffres de Human Rights Watch. On ne peut pas non plus nier le fait que 15 000 civils ont été mis devant des tribunaux militaires. Donc quand on entend Sissi dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques aujourd'hui en Égypte, ça pose problème.
On a aussi dans la question du travail, qui est importante quand on parle de l'égalité homme-femme. Un peu moins d'une femme sur quatre, âgée de 15 à 64 ans, travaille en Égypte, du moins avec un travail formel, Chérine El Fekki.
Oui, ce qui est intéressant en Égypte et dans la plupart des pays dans le monde arabe, on a un taux d'éducation des femmes qui est très élevé maintenant. Mais le problème est de traduire ça en emploi. Et ce qu'on a trouvé dans notre étude sur la masculinité, les hommes se définissent surtout comme les pourvoyeurs des besoins de leur famille. Et si on ne peut pas trouver de travail parce qu'on a des taux de chômage très, très, très élevés en Égypte, surtout pour les jeunes, comment est-ce qu'on est homme encore? Et aussi, les femmes définissent les hommes en tant que soutien de la famille. On a fait des entretiens au Maroc, par exemple, et une femme m'a dit, et moi, je gagne de l'argent, j'ai la chance d'avoir un boulot et je suis responsable. Et alors, est-ce que ça veut dire que je suis homme maintenant? Parce que les hommes parmi nous, ils n'ont pas le pouvoir. Alors, il y a une sorte de crise de masculinité et c'est surtout sur les questions de l'économie et de l'emploi.
Et pour vous, le changement pour les femmes en Égypte passera par l'éducation de l'opinion publique et notamment la sensibilisation des hommes?
Oui, c'est tellement important et pas seulement dans les médias et dans les écoles, mais dans les foyers, les familles elles-mêmes. On doit interroger comment est-ce que les mères élèvent leurs fils aussi, parce que les idées patriarcales commencent dans la maison. Et on doit changer tout pour les hommes et pour les femmes aussi.
La révolution des femmes passe par
évolution,
les hommes.
Évolution.
On ne va plus parler de révolution. Merci Chérine El Fekki d'être venue dans notre studio RFI. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La révolution du plaisir, aux éditions Autrement. Merci à vous, Florie Bavard. Pour tous les voisins curieux, je rappelle le site internet sur lequel on peut passer des heures, 7 heures même, à écouter, à regarder ces femmes égyptiennes militantes parler, sourire, s'émouvoir, vivre. Des portraits passionnants face caméra, à retrouver donc au fil de plusieurs mots-clés. Le projet s'appelle Womanhood. Le site, c'est womanhood-egyptienne-kaleidoscope.com. On va mettre le lien parce qu'il est un peu compliqué sur la page internet de notre émission. Merci à toutes les deux, vous restez avec
Merci
nous les voisins. On se retrouve dans un instant pour parler d'une autre initiative qui entend faire résonner d'autres voix, celles de réfugiés syriens et irakiens qui fuient notamment l'État islamique. Ils sont au cœur du Kurdistan irakien et ils ont des choses à nous dire.
Levan çöla Dünyalimin bu yazından Jite durin Levan çöla Dünyalimin bu yazından Garibim vez garibim Garibim vez garibim Bimrim vez tenebinim Yar 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 غريبم وز غريبم غريبم وز غريبم بمر وز تنابينم يار ضايبتا وسويما وكتيري باس شكستيما ضايبتا وسويما
Antoine Lalanne Desmé nous a rejoint dans ce studio sur une musique enregistrée dans le camp de Bashirma au Kurdistan irakien par des réfugiés syriens pendant une émission de radio que vous avez organisée. Bonjour Antoine Lalanne Desmé.
Bonjour Charlie.
Vous vous êtes rendu dans 9 camps de personnes réfugiées et déplacées au Kurdistan irakien pour y poser vos micros dans l'idée de permettre à ceux qui le souhaitaient de créer leur propre émission de radio. Alors comment est né ce projet, cette idée-là ?
Alors ce projet, il est né à Paris, tout simplement. Et on est allé en Irak parce que la situation était, nous attirait là-bas. Il y a forcément beaucoup de déplacés, beaucoup de réfugiés. Donc le projet, tout simplement, est né à Paris avec une association qui est à la base de tout ça, qui s'appelle Radioactivité, et dont le but numéro un est de faire se rencontrer des gens pour qu'ensemble, ils puissent faire leur propre émission de radio.
Vous étiez déjà intervenu dans des maisons de retraite, des lycées, des prisons. Là, vous avez eu envie de vous rendre dans des camps de réfugiés. Alors, des camps en Irak qui accueillent notamment des réfugiés syriens.
Des réfugiés syriens, mais aussi des déplacés internes. Beaucoup d'Irakiens qui quittent leur ville pour aller dans une autre ville dans leur propre pays, en Irak. En fait, c'est des gens qui fuient l'État islamique.
Et l'idée, c'était...
C'est environ 3 à 4 millions de personnes.
Dans les camps. L'idée, c'est de libérer la parole de ces réfugiés-là, que leur voix soit entendue.
Oui, tout à fait. On a l'idée, on postule qu'en fait, à partir du moment où on met des micros, eh bien, ça crée un espace où les gens peuvent parler, peuvent se rencontrer, discuter entre eux, discuter de thèmes tabous, de thèmes du quotidien. Tout ça permis par cette idée de faire ensemble une émission de radio. Et nous-mêmes, on va là-bas, on emmène des micros, on crée cet atelier, mais on n'intervient pas du tout. C'est-à-dire que les participants à l'atelier sont à la fois, on va dire, les journalistes et les intervenants de leur propre émission. C'est eux qui se posent les questions, c'est eux qui y répondent.
C'est eux qui posent les questions, on ne vous entend pas du tout.
Pas du tout, rien du tout.
Vous êtes notamment rendu dans un camp qui accueille des déplacés irakiens chrétiens, le camp d'Ashti 2, qui accueille donc des chrétiens déplacés de Mossoul et de Karakoche. On va écouter tout de suite un extrait de l'émission que vous avez enregistrée là-bas.
Il y en a des gens qui sont très envie de retourner chez eux, mais il y a également des difficultés par rapport à la sécurité, des difficultés économiques et également par rapport aux services. Et un autre problème s'ajoute aussi par rapport à la construction ou, si je peux dire, la reconstruction des maisons. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des maisons qui sont à Karakoche sont brûlées ou peut-être même détruites.
Cette émission s'intitule « Le retour ». Alors, les personnes déplacées irakiennes qui y participent évoquent, on l'entend, les conditions de vie dans leur camp, leur vision également de leur situation. Ce sont en général les thématiques qui sont abordées pendant ces émissions radio que vous enregistrez sur place, Antoine Lalande-Desmé.
Oui, pendant ces ateliers micro-camp radio, il y a beaucoup de thèmes en fait, qui surgissent. En fait, on utilise plein de petites techniques. On demande aux gens d'écrire des thèmes sur des papiers de manière secrète et après on en discute ensemble. Comme ça, ça permet à plein de thèmes d'émerger. Et c'est vrai que c'est surprenant. Alors bien sûr, il y a la vie dans les camps, le quotidien, ce qu'on espère, l'envie parfois d'aller en Europe. Après, il y a des choses du quotidien. Par exemple, il y a des personnes déplacées qui ont décidé de consacrer une émission au mariage des enfants. Parce que dans leur région, il y avait beaucoup d'enfants qui se mariaient avant l'âge de 18 ans et donc arrêtaient leurs études. Mais après, il y a eu des émissions sur la gastronomie, il y a eu des émissions sur la musique. D'ailleurs, le réfugié syrien que vous avez entendu, la personne réfugié jouait de la musique. Il a dit, moi, dans cette émission, j'ai envie de jouer. Je vais raconter en musique un peu ce qui m'arrive. Voilà, parce qu'il faisait des émissions radio. Donc, une émission radio, il y a un générique, il faut de la musique au milieu, il faut des gens qui parlent.
Vous leur donnez les bases, en fait, d'une émission radio et ensuite, ils se débrouillent.
Voilà,
en choisissant les thèmes qu'ils abordent.
Ouais, on les accompagne. En fait, finalement, notre rôle, ça va surtout être d'être là avec les gens, de les rassurer, de dire, faire une émission de radio, ça se fait comme ça, et puis surtout, votre parole, elle compte, en fait. C'est ça. Ça nous arrivait beaucoup, ça, notamment les jeunes, de voir des jeunes qui pensaient que ce qu'ils avaient à dire, c'était pas intéressant. Mais en fait, pas du tout. Enfin, c'est très intéressant. Et puis, finalement, ils parlaient un petit peu, et puis, entre eux, ils discutaient, ils disaient, ah oui, mais tu penses ça, toi ça, et puis voilà, ça crée une émulation, et puis petit à petit, ça faisait une émission.
Et puis parfois, une thérapie collective, peut-être. Puisqu'on imagine qu'il y a aussi de la souffrance qui ressort de tout ça.
Ouais, oui, bah, y a beaucoup de gens qui ont vécu des traumatismes très forts et qui ont besoin d'en parler. Nous, on aime dire, enfin, souvent on travaille beaucoup avec des ONG en fait, hein, pour aller dans les camps, etc. Et on présente ça comme un atelier psychosocial parce que, effectivement, c'est un lieu pour libérer la parole, où on peut parler, on peut s'écouter. Nous, notre rôle vraiment, dans le cadre de Microcamp Radio, ça va être aussi de faire que chacun puisse parler à égalité. Parce que, évidemment, dans les groupes, il y en a toujours un qui parle plus que les autres. Mais en faisant des jeux, en écoutant chacun, on arrive à ce que voilà, chacun puisse parler comme il veut. Et donc il y a une dimension psychologique assez forte. Hein.
Et on a des femmes alors qui participent à ces ateliers ?
Oui, oui. On a essayé plein de choses différentes. On a fait des ateliers où on mélangeait des femmes, des hommes. On a fait des ateliers qu'avec des femmes. Et ouais, c'était vraiment intéressant parce que forcément les choses ne sont pas les mêmes. On a fait un atelier qui nous avait vraiment très étonnés dans un camp où en fait les femmes ont fait une émission passionnante. Elles ont parlé de leur quotidien, de leurs espoirs, de leur envie de rentrer dans leur ville d'origine, mais c'était pas possible parce que c'était détruit à cause de l'État islamique. Et voilà, enfin, c'est vraiment passionnant comme émission. Et en fait, elles n'ont pas voulu qu'on la diffuse parce qu'elles ont dit, ben, vous savez, nous, dans le camp, les femmes, on est très contents d'avoir dit ça, mais on ne veut pas que les autres personnes du camp l'entendent. Voilà.
Parce elles avaient honte de ce qu'elles avaient dit.
Je ne sais pas si elles avaient honte, mais en tout cas, elles estimaient qu'il ne fallait pas que ce soit entendu. Elles sentaient qu'elles n'avaient pas le droit de le faire.
Voilà. Parce que ces émissions sont diffusées sur votre page internet. Elles sont réalisées aussi en partenariat avec le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies. Alors rapidement, quels sont vos projets prochainement avec Microcamp Radio ? Est-ce que vous allez retourner en Irak ?
Alors, on va retourner en Irak. On aimerait rester beaucoup plus longtemps dans les camps, dans l'objectif de former des gens. Comme ça, eh bien, nous, on n'aura plus besoin d'y aller. Et en fait, les gens pourront faire les ateliers eux-mêmes, faire des émissions de radio sans nous. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de Microcamp Radio dans les mois à venir au Kurdistan, enfin en Irak, globalement.
Merci. Merci à vous, Antoine Lalanne, d'être venu dans notre studio présenter donc ce projet Microcamp Radio, la radio au service des réfugiés dans des camps. Des émissions accessibles à tous hein, sur le site de l'association radio-activité.fr qu'on va aussi mettre en ligne sur notre site internet. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Sophie Janin à la réalisation, Cécile Lavolo en coulisses, Baptiste Madinier pour vous répondre les voisins et Arthur Tossou. Et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines pour votre écoute. Demain, 7 milliards de voisins, elle défie toutes les catégories, ne veut aucune étiquette. Portrait de Mariam Tiganimine, une jeune femme entrepreneur. À demain les voisins.